Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. L'Australie, ses méga-feux et cette nouvelle ère qui s'ouvre. Rendez-vous à partir de 12h55 avec le philosophe australien de l'environnement, philosophe écologiste Glenn Albrecht, à l'occasion de la parution « Au lien qui libère » de son nouvel essai et ses sommes « Les émotions de la Terre ». Mais d'abord, l'altérité pour Patrie. Après deux romans courts et d'aujourd'hui, dans le jardin de l'ogre et chansons douces, prix Goncourt, best-seller, traduit dans une quarantaine de langues, elle fait demi-tour ou volte-face avec le premier volet d'une trilogie, une fresque familiale, historique, un roman choral, Le Pays des Autres, qui paraît chez Gallimard. Un retour aux sources qu'elle présente à travers la fiction comme un lieu formidable pour s'échapper et se retrouver. L'écrivaine Leïla Slimani est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesber.
Il n'arrive pas à imaginer un écrivain qui ne soit pas engagé. Même le non-engagé, elle est déjà engagée par son non-engagement.
Le prix Nobel de littérature égyptien Naguib Mahfouz, le roi du roman moderne égyptien, l'auteur de la trilogie du Caire 56-57, Impasse des Deux Palais, Palais du Désir, Le Jardin du Passé. Elle signe à son tour une première trilogie, Le Pays des Autres, avec ce premier volet, La Guerre, La Guerre, La Guerre, qui paraît chez Gallimard. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
C'est une saga moderne, historique et intime à la fois. On l'a présentée d'ores et déjà comme le roman de la décolonisation. Est-ce que ce terme vous convient? Est-ce que c'est un genre que vous êtes aussi en train d'adapter ou de réinventer aujourd'hui?
Je ne sais pas si ça peut déjà être un genre, mais ce qui est sûr, c'est que cette période qui court de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'indépendance du Maroc, puis ensuite à l'indépendance de beaucoup d'autres pays africains, est une période passionnante pour un romancier parce que c'est une période de grande confusion. C'est une période où finalement tout est remis en cause. L'autorité des vieux est remise en cause par les jeunes, l'autorité des colonisateurs est remise en cause par les colonisés. Toutes les vieilles règles sont bouleversées. C'est aussi un moment où finalement toutes les frontières, tous les ordres qu'on avait mis en place avant vont être complètement remis en cause. Moi, je me souviens que ma grand-mère me racontait que la première fois qu'elle a vu un Africain sur son territoire, c'est-à-dire en Alsace, c'était mon grand-père et son régiment, et qu'elle pensait que les Africains, c'était des gens un peu sauvages, un peu monstrueux, et que d'un coup, il y a eu une sorte de confrontation entre cette image dans laquelle on avait éduqué toute une jeunesse européenne sur la sauvagerie africaine et l'arrivée de ces régiments qui sont des gens qui vont les libérer, qui deviennent des héros. Donc cette période m'intéressait beaucoup pour ça parce qu'elle rebat toutes les cartes.
Voilà, et des représentations, il y en a des deux côtés.
Voilà.
C'est ce que vous racontez aussi à travers cette fiction. Est-ce que vous y êtes allé à la manière d'un écrivain engagé ou au contraire, comme le dit Naguib Mahfouz, à la manière d'un écrivain non engagé, c'est-à-dire engagé par son non-engagement?
Mais je crois que Naguib Mahfouz, il a tout à fait raison. Un écrivain est forcément engagé dans la simple mesure où un écrivain est quelqu'un d'insatisfait, c'est-à-dire qu'on écrit parce qu'on est insatisfait. Quelqu'un de satisfait n'a pas besoin d'écrire. Il y a toujours une forme de révolte vis-à-vis du monde tel qu'il est, qui peut être une révolte politique, une révolte intime, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, on interroge le monde, on cherche des réponses. Donc, je crois qu'il y a forcément un engagement, et puis il y a un engagement, je dirais, personnel, presque physique dans l'écriture. Tous les jours, se remettre à sa table, tous les jours, croire qu'il y a un sens dans le fait de raconter des histoires, c'est une forme d'engagement.
S'attaquer à une trilogie, et là c'est le premier volet qui sort aujourd'hui, deux autres sont donc d'ores et déjà annoncés à 1 ou 2 ans d'intervalle sur deux périodes qui suivront. Ici on est dans cette période de l'après-guerre jusqu'à la déclaration d'indépendance, la fin du protectorat marocain. À la fin des années 50, suivra une période autour des années 70. Puis, parce qu'on saute une génération à chaque fois, celle des années 2000 à aujourd'hui, s'attaquer à une trilogie, ça demande du souffle.
Oui, ça demande du souffle, ça demande une certaine ambition et j'ai toujours penser qu'il fallait s'obliger à être ambitieux, qu'il fallait toujours avoir des défis qui paraissent impossibles, qui paraissent difficiles. Moi, la difficulté, de manière générale, c'est quelque chose qui me galvanise. Quand j'ai le sentiment que j'y arriverai pas, eh bien, je m'y mets avec d'autant plus de force, d'autant plus d'énergie. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est un défi fou, peut-être que c'est un défi que je n'arriverai pas à relever comme j'ai envie de le relever. Mais de toute façon, la littérature, c'est toujours... c'est une entreprise d'échecs continuel. On a tout le temps l'impression d'échouer. Alors on cherche du courage et puis à la fin, c'est jamais le livre qu'on voulait écrire. Donc il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec cette frustration et comme disait Beckett, il faut juste chercher à échouer mieux.
Prix Goncourt 2016, chanson 12. Est-ce que vous diriez que ce prix vous a quand même un peu coupé le souffle à un moment, que vous étiez un peu à bout de souffle par peut-être aussi la tournée qui a suivi après cette consécration et que vous aviez besoin d'aller rechercher un nouveau souffle ailleurs?
Je sais pas si ça m'a coupé le souffle, mais en tout cas, ce qui était difficile, c'était pendant des mois et même en fait des années de tourner autour toujours des mêmes sujets et puis d'être dans l'analyse de ma propre œuvre parce que j'ai fait un peu le tour du monde et que je répondais toujours aux mêmes questions et que je parlais de littérature. Donc j'ai eu une forme de lassitude de moi-même et puis de lassitude des sujets que j'avais traités avant qui étaient dans la société contemporaine, dans le Paris d'aujourd'hui. Et donc j'avais envie d'ailleurs, tout simplement, j'avais envie d'aller... Un roman, c'est un lieu où on vit, où on habite quand on est écrivain pendant des semaines, pendant des mois. Et je me suis dit, où est-ce que tu as envie d'habiter? Où est-ce que tu te sentiras bien? Où est-ce que tu te sentiras au chaud? Et les images qui me revenaient, c'était les images de l'enfance, du Maroc. Puis je crois aussi qu'en fait, je suis arrivée en 2017, je suis arrivée à une sorte de mi-temps de ma vie. C'est-à-dire que j'avais vécu autant de temps en France qu'au Maroc pour la première fois. Et je me suis rendue compte de ça et je me suis dit, peut-être que maintenant, je suis prête à parler de ce pays que j'ai quitté depuis maintenant assez longtemps.
Alors Naguib Mahfouz avait fait lui du Caire l'un des personnages, l'un des héros de ses romans. Vous avez choisi d'adopter ici Meknès. Qu'est-ce que représente cette ville, cet endroit pour vous?
Alors d'abord c'est la ville de mon enfance puisque c'est la ville où a été élevée ma mère, la ville où mes grands-parents se sont installés et ont installé leur ferme dans les environs de Meknès. Et puis c'est une ville qui est très importante symboliquement dans l'histoire du Maroc. D'abord parce que ça a été une très grande ville impériale qui a été la capitale de Moulay Ismail, très grand sultan marocain qui est contemporain de Louis XIV et qui est un homme à la fois d'une grande cruauté mais d'une immense intelligence politique, enfin qui représente pour les Marocains quelque chose important et qui a entièrement créé cette ville. Meknès, c'est aussi de la Croix. C'est là où arrive de la Croix. C'est là où va aller aussi Pierre Loti. Donc, c'est une ville littéraire, une ville artistique. Et enfin, pendant la colonisation, c'est vraiment le symbole de la ville ségrégée, de la ville coloniale, avec des colons qui sont les colons agricoles, les militaires, donc avec une mentalité quand même assez raciste, très conformiste, très dure. Et c'est une ville complètement, traversée par des frontières extrêmement claires, extrêmement étanches. Donc je trouvais que c'était effectivement un lieu très important et très intéressant pour le roman. Et puis comme vous le disiez, chez Naguib Mahfouz, mais chez d'autres auteurs de saga, je crois que le lieu est toujours un des personnages principaux. C'est vrai pour Elena Ferrant, c'est vrai pour des sagas russes. Le lieu est fondamental.
Et quand elle y arrive, votre personnage principal, votre héroïne, qui est Mathilde, peut-être inspirée de votre grand-mère, originaire d'Alsace, elle se marie donc à Amine, elle va arriver à Meknès, et on sent que vous redécouvrez aussi cet endroit dans son regard à elle. C'est-à-dire, qu'a-t-elle pu ressentir, percevoir quand elle arrive là, en 1947? La ville lui parut noire et hostile. Amine lui en expliqua la topographie, qui répondait aux principes émis par le maréchal Lyautey, au début du protectorat, une séparation stricte entre la Médina, dont les mœurs ancestrales devaient être préservées, et la ville européenne, dont les rues portaient des noms de villes françaises et qui se voulait un laboratoire de la modernité. On est déjà dans cette double culture, ce double Maroc. Est-ce que vous diriez juste, parenthèse, que c'est un roman métis à votre image, ce pays des autres, et à l'instar de vos personnages, ni vraiment un roman marocain, ni vraiment un roman français?
Ça me fait très plaisir que vous me disiez ça. Oui, j'espère que c'est ça, que c'est un roman métis, que c'est un roman si étrange, comme j'utilise cette métaphore dans le livre d'un arbre qui est à la fois un oranger et un citronnier. Mais là, par rapport à ce que vous venez de lire, moi, ce qui m'intéressait, c'est que pour nous, le métissage, le mélange, la confrontation des cultures, le fait de voyager, c'est quelque chose qui est très naturel. On n'a plus du tout, on n'a plus ce rapport à l'exotisme qu'ont pu avoir les gens de la génération de mes grands-parents. Quand ma grand-mère arrive dans un pays comme le Maroc, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas les codes. Elle ne comprend pas comment ça fonctionne. Elle arrive dans un monde qui sort vraiment de la féodalité. Parce que quand les Français arrivent au Maroc, c'est un pays où il y a des épidémies de typhus et de choléra, un pays extrêmement pauvre, où on vit encore sur certains aspects des mœurs ancestraux. Donc c'était ça aussi qui était intéressant, c'était la confrontation de deux mondes, chose qu'on a un peu oubliée aujourd'hui.
Et elle est influencée par ses lectures, Mathilde, quand elle arrive là, hein, Karen Blixen, Alexandra David-Nel, Pearl Buck, quand elle écrit à sa sœur restée en Alsace, elle convoque un vocabulaire assez exotique là encore, hein. Elle veut faire rêver, elle parlait de razzia, de fela, de djinn et de zélige, écrivez-vous, de toutes les couleurs pour décrire l'environnement qu'elle découvre, elle butait sans cesse sur les mêmes mots, lourds et ennuyeux, et elle percevait alors de manière confuse que le langage était un champ immense, un terrain de jeu sans limite qui lui faisait peur et qui l'étourdissait. Vertige que vous avez dû connaître et rencontrer parfois, on l'imagine, Leïla Slimani.
Absolument.
En faire une héroïne de roman, un personnage de fiction, ça lui aurait plu sûrement à votre grand-mère, non ?
Oh, je crois que ça l'aurait plu. Alors évidemment, elle aurait sans doute eu beaucoup de remarques à me faire, mais ça lui aurait plu parce qu'elle avait un très très grand amour de la fiction. Je crois qu'elle a toujours pensé que la fiction pouvait consoler, qu'elle pouvait réparer, qu'elle pouvait donner à la vie une grande intensité, et que finalement la fiction était là aussi pour répondre à des ambitions que la vie véritable n'est pas capable de combler. Donc c'était une conteuse extraordinaire, et je crois qu'elle aurait aimé, oui, cette transformation d'une partie de sa vie, parce que c'est quand même de la fiction, mais d'une partie de sa vie en roman.
Tout l'enjeu pour vous, écrivaine, romancière, c'est aussi comment nommer l'autre et comment se nommer soi-même. Quel mot pour le dire ? Mathilde, pour les Marocains, c'est la Nasrania, la Nazaréenne, la chrétienne, donc l'étrangère. Et c'est la question que vous posez, vous, à travers ce mot métisse. Elle vient de signer chez Grasset un éloge du métèque, figure qu'elle dit préférée à celle de l'immigré ou de l'étranger, car elle porte en elle l'idée de métissage. Abnous Chalmani nous disait récemment que si la place du métèque est difficile à trouver, elle porte en elle cette promesse de réinvention, on l'écoute.
Bien entendu, on ne naît pas métèque, puisque la grande tragédie des métèques, c'est qu'ils ne font pas d'enfants métèques, puisqu'à partir du moment où ils s'installent et font des enfants, leurs enfants ne seront plus métèques. Donc comment préserver, comment rester métèque? Et c'est ça qui est très difficile, parce que surtout aujourd'hui, d'autant plus, le métèque est quand même tenté soit de glorifier son origine, soit de perdre la mémoire dans une assimilation totale. Donc il est un équilibre. Il reste entre les deux. Il peut pas s'échapper ni vers ce qu'il a perdu, qui est son pays d'origine, ni vers ce qui n'existe plus, c'est-à-dire la communauté artificiellement reconstituée, et il peut pas tenir dans son pays d'adoption. Il a trop de visages, il est trop fuyant, trop mouvant. Et la chose la plus difficile à garder, c'est quand même une liberté.
Ce mot métèque, vous l'adopteriez, Leïla Slimani ?
Oui, j'ai lu le livre d'Abnous que j'ai beaucoup aimé, et elle dit quelque chose de très intéressant, c'est que finalement le métèque est toujours très bien placé pour écrire, pour créer, parce qu'il a cette position justement déséquilibrée, il a cette position d'observateur, de personnage un peu extérieur, et au fond, moi j'ai essayé d'en faire une force pour écrire des romans et pour aller vers l'autre, parce que le métèque c'est celui qui est un peu de tous les autres, donc écrire ça n'est rien d'autre que se mettre de se mettre à la place de son prochain, de celui qui est différent de moi, de celui que je ne comprends pas, et peut-être que le métèque est le mieux placé pour ça.
Elle parle aussi de ce jeu de dupe dans lequel est pris l'étranger partout où il va. Quand est-ce que vous avez réussi, vous, Leïla Slimani, à vous extraire de ce jeu de dupe qui vous était un peu imposé, auquel vous n'aviez pas forcément choisi de participer et d'ouvrir les yeux ?
Mais ce jeu de dupes, je crois qu'il n'a pas trait seulement à l'identité, il a trait de manière générale au fait d'être sensible à ce que les gens pensent de vous, ou à ce que les gens disent de vous, ou en tout cas à l'identité qu'ils vous assignent. Moi, j'ai arrêté finalement d'être dans ce jeu de dupes à partir du moment où j'étais la seule à pouvoir dire qui j'étais. Où j'étais la seule à être dans ce questionnement, à me poser des questions et à y répondre. En tant que femme, en tant que marocaine, en tant que française, je refuse que ce soit les autres qui me disent ce que je suis ou ce que je dois être. Donc ça ne me dérange pas du tout de déplaire, ça ne me dérange pas du tout de donner parfois aux gens le sentiment d'être déloyal, c'est-à-dire de ne pas parler au nom de telle ou de telle communauté, puisque je n'appartiens à rien.
Il y a aussi un conflit presque intérieur entre les deux personnages principaux, c'est-à-dire Mathilde, l'Alsacienne, qui vient rejoindre Amine, avec lequel elle s'est mariée au Maroc, avec lequel elle va vivre. On sent que ces deux-là s'aiment passionnément, se respectent, se désirent et à la fois ne se comprennent pas. Qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui fondamentalement les divise?
D'abord, ce qui les sépare, évidemment, sur le plan superficiel, c'est une culture. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même religion, ils ne partagent pas forcément toujours les mêmes codes, les mêmes valeurs. Ils se heurtent l'un l'autre parce que Mathilde va parfois avoir des comportements dont Amine a honte et inversement. Mais surtout, ils vivent à une époque où le couple mixte, le fait d'être métissé, est synonyme d'une forme de déclassement, est synonyme d'une marginalité subie. Chaque communauté les regarde comme des traîtres. Mathilde a trahi sa communauté blanche, à laquelle du coup elle ne peut plus appartenir, et Amine aussi est en porte-à-faux vis-à-vis de la communauté des Marocains, puisqu'il est marié avec l'ennemi. Donc d'une certaine façon, ils s'en veulent chacun en veut à l'autre d'avoir provoqué ça, et ils s'en veulent à eux-mêmes de ressentir une telle chose. Donc je crois qu'ils sont constamment déchirés. Et donc ils arrivent à créer quand même un petit lieu à eux. Et leur ferme est un peu leur île. Et ils arrivent à se protéger de temps en temps du monde. Et c'est là que leur amour peut s'épanouir, peut exister. Mais dès qu'ils sont en confrontation avec le reste du monde, avec la société, avec les événements politiques, de nouveau, tout ce qui les sépare ressurgit de manière extrêmement violente.
Finalement, d'avoir ce couple mixte vous a permis de traiter des préjugés, des clichés, des deux côtés à travers cette inversion des regards.
Oui, bien sûr, c'était un laboratoire très très intéressant et j'en avais pas tout à fait conscience au début de l'écriture, mais plus j'écrivais, plus je me rendais compte que ça permettait beaucoup de choses. Et puis je dois dire que de la même manière qu'on peut avoir une vision très naïve et gentillette du métissage, on a souvent une vision un peu naïve des couples mixtes. Ça n'est pas facile d'être un couple mixte. Ça n'est pas facile de construire un couple quand il y a autant de différences sur le plan de la classe sociale, de la culture, de la religion, etc. Déjà, c'est difficile de construire un couple, mais quand en plus tous ces obstacles se dressent, je crois que ça l'est d'autant plus, même si c'est pas forcément facile à dire ou à entendre aujourd'hui.
Il y a des très beaux passages sur cet amour qu'ils ont pu ressentir l'un et l'autre et cette adaptation permanente que cet amour exigeait. Amine aimait sa femme, écrivez-vous. Il l'aimait et il la désirait au point de se réveiller parfois au milieu de la nuit avec l'envie de la mordre, de la dévorer, de la posséder de manière absolue. Mais il lui arrivait de douter de lui-même. Quelle folie lui était passée par la tête? Comment avait-il pu penser qu'il pourrait vivre avec une Européenne, une femme aussi émancipée que Mathilde? À cause d'elle, à cause de ses douloureuses contradictions, il lui semblait que sa vie était régie par un mouvement de balancier hystérique. Parfois, il ressentait un besoin violent et cruel de revenir à sa culture, d'aimer de tout cœur son Dieu, sa langue et sa terre. Et l'incompréhension de Mathilde le rendait fou. Il voulait une femme pareille à sa mère, qu'il comprenne à demi-mot, qui ait la patience de l'abnégation de son peuple, qui parle peu et qui travaille beaucoup. Une femme qui l'attende le soir, silencieuse et dévouée, et qui le regarderait manger et trouverait là tout son bonheur et toute sa gloire. Mathilde faisait de lui un traître et un hérétique.
I'm not afraid to die.
algéroise Souad Massi avec ce nouvel album qui vient de paraître chez Naïve en octobre dernier. Elle sera en concert à Suresnes le 18 mars, à Grasse, Mâcon, Levain, Suresnes le 12. Beaucoup de dates pour cette tournée donc de Souad Massi qui a débuté. Ce nouvel album s'appelle Oumnia, mon souhait. Vous en avez, vous, un souhait, Leïla Slimani?
Oh, j'en ai beaucoup, bien sûr. J'en ai surtout pour les autres, pour ceux que j'aime.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Le Maroc des années 50, cette décennie qui court de l'après-guerre à l'indépendance, à chaque objection de Mathilde, Amine répond « ici, c'est comme ça ». C'était comment, Leïla Slimani? Qu'est-ce qui semblait si figé ou si établi?
Mais quand il lui dit « ici, c'est comme ça », il lui impose d'une manière très autoritaire et en même temps, il se rend bien compte qu'il est dur avec elle, mais il essaye de lui expliquer qu'au Maroc, une femme, elle ne discute pas. Elle ne remet pas en cause les règles et que quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et à la fois, il appuie sur son statut d'étrangère, mais je crois surtout sur son statut de femme. Ce qui est très dur pour Amine, c'est que la modernité de sa femme, son caractère émancipé, son désir de le suivre quand lui veut sortir le soir, elle dit, ben moi, je viens avec toi. Ça l'arrache encore plus à sa culture que le fait qu'elle soit une étrangère. C'est cette liberté de femme pour lui qui est insupportable parce qu'il ne sait pas quoi en faire et parce qu'il n'a jamais connu ça et parce qu'à chaque fois qu'on lui a parlé d'une femme libre, on lui a plus ou moins dit qu'une femme libre, c'était une femme perdue. Donc, il ne sait pas où placer sa femme et donc il veut tout le temps lui rappeler qu'ici, c'est comme ça et qu'elle ne peut pas discuter, qu'elle doit juste s'adapter et c'est tout.
Mathilde, elle découvre que la place des femmes est alors à la cuisine. Elle voit la mère d'Amine, Mouilala, qui ne sort jamais de chez elle. Il y a encore beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire seule, ni à visage découvert. Ce voile qu'elle met parfois et qui l'amuse au début, ce déguisement, écrivez-vous, elle était une petite fille qui joue à être une autre, cette imposture la grisait, pensait-elle parfois. Ce voile qui parfois aussi l'oppresse, si cet anonymat la protégeait, la grisait même, il était comme un gouffre dans lequel elle s'enfonçait malgré elle, et il lui semblait qu'à chaque pas, elle perdait un peu plus son nom, son identité, qu'en masquant son visage, elle masquait une part essentielle d'elle-même. Ce que voit Mathilde, ce que vit Mathilde, c'est une période de transition déjà, hein, une période aussi d'émancipation des femmes. On va écouter un sujet de la radio-télévision française de 1949 sur la femme marocaine.
Déjà, on peut voir à Rabat, à Casablanca, de jeunes femmes en costume tailleur, en chapeau, le sac en bandoulière, comme de quelconque parisienne. Et à la sortie des lycées, des jeunes gens et des jeunes filles se promenaient ensemble dans les rues ou dans les jardins. L'exemple d'ailleurs vient de haut, et la jeune princesse Lala Aïcha, la fille du sultan elle-même, ne dédaigne pas de sortir habillée à l'européenne, de faire de l'équitation en Amazone et même d'honorer les plages de sa présence en maillot de bain. Spectacle absolument impensable il y a seulement une vingtaine d'années. Mais en 1920, il n'y avait encore que 300 petites marocaines à fréquenter nos écoles. Il y en a aujourd'hui près de 16 000. C'est peu, direz-vous, mais je vous assure qu'au Maroc, en terre d'islam, c'est déjà beaucoup. Et dans quelques années, il y aura probablement de jeunes musulmanes bachelières qui pourront devenir, comme leurs soldats d'Algérie, assistantes sociales, infirmières, voire même dentistes ou avocates. Ceci me paraît très important, car c'est par la femme que sera façonnée la jeunesse de demain, que sera modifié son milieu et par suite ses traditions, ses préjugés. C'est elle qui pourra aider le mieux par conséquent à son émancipation quand elle aura elle-même conquis, comme elle est en bonne voie de le faire, ses premiers galons de citoyenne.
Voilà, extrait de Paris vous parle, avec notamment une évocation de la princesse Lala Aïcha, qui était la fille du sultan, éduquée en partie avec les codes de cette culture moderne, comme elle le disait elle-même dans un discours à Tanger en avril 47 auquel vous faites référence. Paris vous parle. Il avait bien raison, ce monsieur, il avait vu juste, c'est par la femme que sera façonnée la jeunesse de demain au Maroc.
C'est, en tout cas, pour aujourd'hui, ça me paraît évident, la place de la femme, la question de la mixité dans l'espace public, le droit des femmes à disposer de leur corps, le fait simplement que la citoyenne marocaine puisse devenir une citoyenne à part entière, qui possède son corps, qui puisse en faire ce qu'il veut, c'est une question essentielle. Mais la période de l'indépendance est une période à la fois de grands espoirs, parce que, voilà, incarnée effectivement par Lala Aïcha, qui va donner son nom à la petite fille dans mon roman. Donc l'espoir que les femmes vont s'émanciper, vont sortir dans la rue, vont pouvoir travailler, évidemment ça a été beaucoup plus difficile que ça, et les résistances à l'émancipation des femmes ont été très fortes. Mais c'est une période où effectivement une partie de l'élite à Casablanca, à Rabat, dans les villes comme ça, vont commencer, les jeunes filles vont commencer à sortir, à aller même dans les cafés, à aller dans les cinémas. Donc c'est une période pour les femmes effectivement très très excitante, mais ça ne concerne qu'une toute petite partie de la population marocaine.
Aïcha, qui est dans cette trilogie autobiographique, celle qui correspond au thème de génération à votre mère, est-ce que vous diriez que déjà elle portait en elle quand même les germes de cette accélération, de ce changement qu'on va retrouver peut-être beaucoup plus tard dans le troisième tome, qui portera sur cette période de l'après 2000 avec les enfants d'Aïcha, donc vous et vos sœurs?
Oui, bien sûr. Et ce qu'on a tendance un peu à oublier dans le monde occidental, c'est que le Maroc et de manière générale le Maghreb ont vécu des changements radicaux à une vitesse absolument vertigineuse. C'est-à-dire qu'entre ma grand-mère et moi, et alors encore plus entre mon arrière-grand-mère et moi, il y a une véritable révolution. Mon arrière-grand-mère ne savait ni lire ni écrire, n'avait jamais voyagé, sortait jamais de chez elle. Si elle voyait la femme que je suis aujourd'hui, je crois qu'elle aurait même du mal à croire que c'était possible pour une femme d'avoir accès à tout ce à quoi j'ai accès. Donc oui, je veux raconter ça, cette rapidité. Et évidemment, cette rapidité, elle génère de la violence, elle génère des résistances d'autant plus grandes que il faut du temps pour s'habituer à un changement culturel, à ces révolutions. Donc c'est ça que je veux aussi raconter, bien sûr.
C'est la petite histoire dans la grande, ce que vous avez souhaité faire aussi avec cette trilogie, avec ce pays des autres dont le premier volet paraît aujourd'hui, un Maroc en transformation, et des relations aussi au sein des familles, dans l'intime qui se modifie au fil de ces évolutions du pays. Le premier tome s'appelle La guerre, la guerre, la guerre. Le deuxième?
Je ne sais pas encore.
Merci beaucoup à vous, Leïla Slimani. Le pays des autres vient de paraître chez Gallimard, premier tome donc de votre trilogie. C'est un roman. Merci à vous d'avoir été avec nous.